Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Micro-Rebelle, Micro-Rebelle Reportage. Aujourd'hui nous sommes avec Adeline de Lépinay qui a participé à deux débats pensés ensemble organisés par la coopérative CLIS 21. Donc un débat à Mont-Saint-Barœul, à l'Auberge Espagnole, et un débat à Liévin, au LAG, le lieu autogéré du bassin minier. Donc Adeline, bonjour.
Bonjour.
Et on a également Sandrine qui est avec nous aujourd'hui. Sandrine qui a participé au débat Penser Ensemble de Liévin. Sandrine, bonjour.
Bonjour.
Alors Adeline, pour nos auditrices et nos auditeurs, ce que je te propose, c'est de te présenter, situer un petit peu dans quel cadre tu étais à ces deux débats, et puis nous en dire un peu plus sur, en quelque sorte, ce qui te motive, quelles sont les choses importantes pour toi dans ces deux débats. Et puis après, on reviendra peut-être plus sur le contenu.
Donc moi, je suis Adeline. Je suis pas mal investie dans l'éducation populaire depuis quelques années, en tant que militante, artisane, donc en recherche, une praticienne en recherche sur comment on pratique l'éducation populaire. Et mon obsession un petit peu à moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre éducation populaire et les luttes, comment on arrive à faire en sorte que l'éducation populaire nous mène vers des luttes et des transformations, comment on fait en sorte pour que les luttes soient des espaces d'éducation populaire avec cette volonté positive d'en faire des espaces d'éducation populaire. J'ai travaillé dans l'éducation populaire institutionnelle pendant pas mal de temps, notamment dans les foyers de jeunes travailleurs. J'anime un blog qui s'appelle education-populaire.fr et je me suis intéressée à une pratique qui s'appelle le community organizing. Ce qui m'a intéressée dans cette pratique, c'est justement d'interroger comment est-ce qu'on fait le lien entre éducation populaire et lutte. Donc je soignais mon obsession en faisant ça. Et donc j'ai été organisatrice d'éducation populaire pendant 2 ans à Aubervilliers, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et à la suite de cette expérience, j'ai décidé d'arrêter pour comprendre un petit peu mieux ce que voulait dire cette pratique-là. Et pour ça, je suis partie pendant plusieurs mois aux États-Unis pour voir ce qui se passe là-bas. L'organizing est une pratique très, très banale là-bas et du coup très, très diverse aussi. Et donc aller voir quelle est la diversité de l'organizing, aussi bien dans les syndicats que le community organizing qui correspond un petit peu au milieu associatif sous un angle des associations revendicatives, et donc aller voir là-bas la diversité des pratiques.
Très bien, je te remercie. Alors peut-être Sandrine, quelques mots sur qui tu es, puisqu'il t'a amené à participer à ce débat.
Alors Sandrine, je suis comédienne et je suis un petit peu investie plutôt de façon filiale, c'est-à-dire que c'est ma maman qui est très très militante et qui m'emmène des fois partout et notamment dans des débats comme aujourd'hui. Ça m'a vachement intéressée, d'autant plus qu'en réalité je suis la fille de ma mère et j'avais déjà pratiqué le community organizing. Chez moi d'ailleurs ça m'a permis de voir un petit peu justement que mes réflexions personnelles, elles étaient aussi en écho avec tes propres réflexions. Ça m'a beaucoup intéressée Et ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, des méthodes, certaines méthodes qui sont efficaces, peuvent amener à d'autres questionnements, à d'autres envies, à d'autres pratiques. Voilà, c'est ce que tu essaies d'expliquer un petit peu. Voilà. Merci.
Alors, on va essayer justement de revenir un petit peu sur tout ça. Alors, Adeline, on va commencer par l'éducation populaire, hein, qui était le point d'entrée de ces deux débats. Donc, sans doute un concept dans lequel plein de gens mettent plein de choses différentes. Toi, qu'est-ce que tu mets derrière l'éducation populaire et quels sont les points sur lesquels tu as envie d'insister ?
Moi, ma façon de voir l'éducation populaire, parce qu'en effet, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de définition instituée, reconnue et sur laquelle tout le monde s'entend. Pour moi, l'éducation populaire, c'est avant tout une activité collective, une activité permanente qui n'a pas de début, pas de fin. On est sans cesse, si on le souhaite, en processus d'éducation populaire qui concerne beaucoup la question de la dignité. Ça va consister à se réapproprier les choses qui nous concernent. Et donc, il y a deux choses principales pour moi dans l'éducation populaire, deux axes. C'est d'une part la conscientisation et d'autre part le pouvoir d'agir. Donc, c'est deux gros mots. Donc, je vais peut-être clarifier un peu ce que je mets derrière ces deux mots-là. Derrière la conscientisation, pour moi, c'est remettre les choses en question, sortir des évidences, c'est-à-dire se demander pourquoi est-ce qu'on pense que les choses sont évidentes, enfin, se rendre compte que les choses ne sont pas des évidences. Et ça va contribuer à nous libérer individuellement et collectivement, puisqu'à partir du moment où ces choses ne sont plus des évidences, ça veut dire qu'on peut probablement les penser autrement, voire les changer. Donc, ça pose la question de la culture. La culture dominante qui définit quelles sont ses évidences. Et quand je parle de culture, c'est vraiment culture au sens large. Ça va concerner les valeurs, les convictions, des langues, les savoirs, les arts. Ça va aller sur la question des traditions, des modes de vie. C'est tout ce qui... Et c'est là où ça fait le lien avec la dignité, parce que c'est tout ce qui fait le lien avec ce qui fait notre humanité, ce qui donne du sens aux choses qui nous entourent et comment, quel sens on donne aux choses qui nous entourent. Les conscientisations, ça va être des moments donc, de prise de conscience, des petits retournements, des petits déclenchements, des choses qui peuvent paraître rien du tout, mais qui en fait nous font voir les choses autrement, nous font sortir des évidences. Et ces retournements, généralement, ils vont arriver à des moments un peu imprévisibles, au détour d'autres choses. Ça peut être des conversations, ça va être beaucoup par la lutte, mais en tout cas, ça va être des choses qui nous affectent, des choses qui nous arrivent, des choses qui s'accrochent à ce qu'on est et à la façon dont on est construit, ce qu'on a vécu, etc. Donc, on n'est pas du tout dans de l'embrigadement où il s'agirait d'expliquer les choses et de dire comment il faut les comprendre et ce qu'il faut penser. Ça va être vraiment du dialogue, de l'action. Enfin, ça va être un processus collectif qui va faire qu'on va remettre les choses en question, qu'on va essayer de décaler nos regards et qu'à cette occasion-là, eh ben, on va se libérer de prédétermination quelque part, de déterminisme, et on va essayer de sortir de ça pour se libérer collectivement.
Sandrine ?
En fait, Adeline, ce que tu veux dire, c'est que l'éducation populaire, c'est pas l'école, en fait.
Ouais, c'est ça. On n'est pas dans l'instruction et on n'est pas dans la transmission. On est vraiment dans le dialogue.
Et dans la vie.
Et dans la vie, et dans le concret. Et il y a une phrase qui me parle beaucoup par rapport à ça, c'est une phrase du pédagogue brésilien Paulo Freire, qui dit « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les gens s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » Donc personne n'éduque personne, on n'est pas dans la transmission, ce qui ne veut pas dire que la transmission est inutile par ailleurs, hein. Mais là, dans l'éducation populaire, ce n'est pas l'objet. Personne ne s'éduque seul, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'émanciper tout seul au fond de notre cabane. Les gens s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde, donc l'intermédiaire du monde, ça veut dire en faisant, en discutant, dans le dialogue, dans l'action, dans la lutte, là on va ensemble se transformer. Donc des animateurs d'éducation populaire, c'est pas des gens qui vont être dans la transmission, c'est des gens qui vont eux aussi se transformer. L'éducation populaire, c'est avant tout un processus qu'on fait pour soi-même, non pas seul, mais avec les autres. Mais un éducateur populaire qui lui-même n'a pas l'impression d'apprendre et de se transformer, bon, bah, il ferait mieux d'aller faire autre chose, quoi. C'est pas l'objet.
Donc ça, c'est la conscientisation et donc le pouvoir d'agir. Alors.
Et donc le pouvoir d'agir, ça concerne donc pouvoir au sens de puissance, c'est-à-dire c'est la façon dont on a l'impression d'avoir la main sur les choses qui nous entourent, qui nous concernent. Donc l'idée, c'est de se sentir avoir la main sur les choses qui nous concernent, se sentir capable d'agir. Ça va aller avec développer son audace, son imagination, imaginer que les choses sont possibles et qu'on peut les faire. Donc il y a tout un registre par rapport à oser. oser faire les choses. Et donc, ça va être aussi sortir de l'autocensure, sortir de l'auto-limitation, des déterminismes. Parce que bah, tout le monde a sans doute besoin d'éducation populaire, a des choses à découvrir, etc. Mais moi, l'éducation populaire qui m'intéresse, et c'est a priori l'objet de l'éducation populaire, c'est plutôt du côté des dominés, des opprimés. C'est comment est-ce qu'on sort de notre statut de dominé. Et donc, ça va être par la lutte, parce qu'on a un adversaire dans cette lutte-là. Mais c'est aussi nous sortir des déterminismes. C'est-à-dire qu'en tant que dominé, on est conditionné pour penser que ce qu'on pense n'est pas intéressant, que franchement il y aura d'autres gens qui auront mieux à dire, etc. Et puis que si je bouge, de toute façon, enfin voilà. Bref, on s'empêche de plein de choses. Et donc c'est aussi par le pouvoir d'agir, sortir de ces auto-limitations qu'on se met. Et ça nécessite d'une part de le faire collectivement et d'autre part probablement de le faire en opposition. C'est Frantz Fanon, donc un penseur de la colonisation, qui parle de la violence des colonisés et qui dit qu'à un moment, pour se libérer d'un oppresseur, on est obligé de s'y opposer et cette opposition, elle peut possiblement être violente. C'est nécessaire dans ce processus-là. Donc c'est, du coup, on est dans cette idée de passer à l'action et de passer à l'action par soi-même collectivement. Donc on va vraiment apprendre en faisant, et cette action, c'est mieux si elle est transformatrice, c'est-à-dire qu'on soit dans la lutte, qu'on expérimente son pouvoir collectivement et individuellement. Tout ça pose la question des savoirs, parce qu'il y a quand même une conception très développée d'éducation populaire, comme quoi ce serait rendre les savoirs accessibles à tous. Pour moi, l'éducation populaire, c'est pas ça. Tu veux pas dire que c'est pas important que les savoirs soient accessibles à tous, mais... Souvent, on peut penser, parce qu'on donne une grande place à l'instruction en France, pas que en France, c'est-à-dire qu'on va apprendre, et en apprenant, on va développer nos capacités. C'est pas faux, mais l'éducation populaire procède autrement. On considère que c'est pas savoir qui va nous provoquer nos prises de conscience ou nos capacités d'agir. C'est nos prises de conscience et nos envies d'agir qui vont développer le fait qu'on a besoin de savoir. C'est quand j'ai compris un truc que je vais aller, du coup, avoir besoin de mieux comprendre. Et donc là, je vais aller chercher de l'information. C'est quand j'ai besoin d'agir que là, j'ai besoin d'acquérir des compétences, de voir comment je fais, de comprendre comment d'autres ont fait avant moi, etc. Et donc que je vais aller chercher les savoirs. Sur cette question des savoirs, du coup, après, pour s'approprier ces savoirs-là, il y a plusieurs modes. Il y a un mode descendant, où des gens qui savent, qui ont déjà fait un travail de recherche, vont partager leur savoir. Donc ça peut être soit des conférences, des débats, le livre, c'est ça aussi. C'est des gens qui savent et qui montrent ou expliquent à d'autres. Et donc c'est important, on a tous des choses à apprendre. On ne peut pas tout réinventer. Et de l'autre côté, il y a aussi tout le champ des méthodes actives qui consiste à favoriser, partir de nos savoirs, à partir de nos expériences, valoriser tout ce qu'on sait déjà et construire ensemble des savoirs qui nous ressemblent et qui nous parlent. Donc je pense que les deux sont très complémentaires et en tout cas je m'oppose assez à cette vision de l'éducation populaire qui serait juste une question de savoir et de partage des savoirs et qui en plus considère que les savoirs c'est ce qu'il y a de plus important et qu'en plus il faudrait pas le faire de façon descendante, qui culpabilise le savoir descendant. Moi j'ai appris plein de trucs par les livres et par des gens qui savaient des choses que je savais pas et je les remercie. Je pense qu'on a tous des choses à apprendre des autres, par contre c'est très important de le faire non pas de façon écrasante et aliénante mais également en construisant, en partant des affects. Donc ça pose la question des méthodes, mais les méthodes sont des outils et non pas des fins en soi.
Est-ce que si on te parle de jardin ouvrier, ça peut poser un petit peu justement ce que tu es en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'un jardin ouvrier, on a son petit lopin de terre, on a besoin peut-être du savoir de celui qui est à côté pour planter certains trucs, et en même temps on a des intuitions, on a des envies, et du coup parce qu'on a des envies justement de manger tel et tel truc, on va s'intéresser plutôt à tel légume, comment ça pousse, tout ça. Est-ce que ça te parle ?
Oui, complètement. C'est ça, ouais. Et ça pose la question des lieux de l'éducation populaire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'éducation populaire, on peut la trouver dans plein d'endroits où peut-être on n'aurait pas pensé la trouver. Et puis au contraire, parfois dans des endroits qui sont estampillés éducation populaire, on la trouve un petit peu moins. Parce que on a notamment aujourd'hui les grandes associations d'éducation populaire, c'est-à-dire qui ont l'agrément éducation populaire. Dans ces associations-là, je pense, la Ligue de l'enseignement, les MJC, les centres sociaux, etc., il y a à la fois des choses absolument géniales, avec des gens géniaux, il y a aussi des choses moins intéressantes d'un point de vue de l'éducation populaire, voire pas très intéressantes. Donc ça dépend vraiment des endroits. Le problème de ces associations-là, c'est que leur victoire s'est transformée un petit peu en piège, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, elles ont obtenu le fait d'être financées par l'État, de pouvoir salarier des gens, c'est-à-dire qu'avant, elles fonctionnaient sur le militantisme. Maintenant, ce sont des salariés avec toute une logique, du coup, entre salariés, CA, ça pose la question du salariat associatif. et du coup des associations qui s'institutionnalisent et qui commencent à avoir des objectifs autres que leur objectif de base, inversion des objectifs et des moyens, la pression de devoir payer les salaires à des salariés, et c'est important en effet, et ben ça fait que bah, peut-être on va faire passer la commande de notre financeur avant notre objectif de base. Et ça met en péril l'autonomie. Donc ça, c'est les associations. Mais on va en effet, comme tu le dis, trouver de l'éducation populaire dans plein d'autres lieux. Donc dans la lutte, il y a évidemment de l'éducation populaire parce qu'on va lutter contre quelque chose, pour quelque chose. Et donc on va se poser des questions sur la lutte qu'on est en train de mener, comment on fait, qu'est-ce qui est en jeu, etc. Après, c'est de l'éducation populaire qui a lieu. Et ce serait encore mieux si on la pensait en tant que telle et si on faisait vraiment en sorte qu'elle ait lieu réellement. Il y a aussi tous les lieux de changement de pratique ou de pratique. Donc, ça peut être toutes les expérimentations. Les jardins ouvriers, on n'est pas dans l'expérimentation, mais on est dans la pratique. Et par la pratique, on va se poser les mêmes questions, etc. Donc, c'est clairement des lieux de...
Penser à l'école de la vie aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'école de la vie. Bah, c'est beaucoup du développement via l'éducation des enfants, mais développement de la connaissance de l'enfant, de lui-même, et après, vers les autres. Voilà, c'est vraiment... ça rejoint en fait ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vraiment concret. Ça c'est centré sur le pouvoir de l'enfant de se connaître et de connaître après avec ses propres moyens l'extérieur et d'aller vers l'extérieur. Donc ça rejoint tout ce que tu viens de dire avec l'éducation populaire en réalité.
Et ça pose la question de l'école, ce que tu dis.
Voilà,
parce
tout à fait,
c'est pour ça que je dis l'école, c'est un lieu qui est à la fois le pire lieu pour faire en sorte que rien ne bouge, c'est-à-dire qu'on va laver le cerveau des enfants dès leur plus jeune âge pour leur expliquer que les choses sont comme ça et que la discipline c'est important, etc. Donc inculquer tout plein de valeurs qui vont empêcher la transformation sociale. Et à la fois, quand les instits, les profs sont militants, ils peuvent faire des choses absolument géniales. Et moi je défends que c'est très important que des militants aillent dans ces métiers-là. Alors je parle de l'école, mais ça va être aussi le journalisme, l'art, le travail social, l'animation. C'est des lieux qui sont à la fois nos pires ennemis, et à la fois une solution. Il faut qu'on y soit, c'est là que des choses se passent aussi, quoi. Et donc et selon qu'ils sont réalisés par des militants ou par des non militants, ça donne des choses complètement différentes. Donc il faut que les militants y aillent absolument.
Alors tu évoquais les grandes associations, le tournant de la professionnalisation après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux revenir justement sur l'histoire de l'éducation populaire? Comment est-ce qu'elle... Ça vient de où? Quelles étaient les tensions, les enjeux?
Ouais, je peux vous partager ce que je connais. Je ne suis pas historienne, mais globalement, on fait souvent remonter l'éducation populaire, l'ambition d'éducation populaire à la Révolution française, puisqu'à ce moment-là, l'ambition, c'est de fonctionner de façon démocratique. Et donc, ce qui veut dire que bah, les gens doivent pouvoir participer, doivent pouvoir... Enfin, c'est eux qui sont censés diriger à partir de ce moment-là. Donc, on se dit, bon, bah, les gens deviennent des citoyens. Comment est-ce qu'on devient citoyen? Et donc, il y a l'idée de former les citoyens. Et ça donne un courant qui peut être qualifié aujourd'hui de laïque républicain. C'est un courant qui va s'opposer, qui va lutter contre l'obscurantisme qui est entretenu et qui prend la forme de l'Église catholique à cette époque-là. Et du coup, ça va être vraiment l'ambition de former des citoyens dans l'idée des Lumières, apporter les savoirs, etc. Donc on est beaucoup dans une conception basée centrée sur les savoirs aussi. Ça va donner notamment la création de la Ligue de l'Enseignement, c'est en 1866. Et c'est dans cette idée-là aussi que va se mettre en place l'école laïque publique obligatoire, si j'oublie rien. Voilà. Donc c'est là, on est 1881, les lois Jules Ferry. Donc ça pose d'autres questions, parce que ça, c'est aussi s'opposer à l'autonomie ouvrière, mais c'est aussi s'opposer à l'instruction par l'Église, et c'est le fait d'apporter pour le coup l'instruction à tous les enfants du pays. Donc ça, c'est un premier courant laïque républicain. Il y a un deuxième courant qu'on pourrait qualifier de chrétien social, qui lui se concentre contre la misère. C'est un courant qui va clairement lutter contre les inégalités, être très actif à cet endroit-là, mais qui dans ses finalités va viser plus une réconciliation au sein de la société. C'est la doctrine chrétienne, et du coup qui va être, on dit que c'est interclassiste, c'est-à-dire qu'ils vont réunir à la fois des fils de notables et des fils d'ouvriers ou de paysans pour construire ensemble un monde meilleur et plus juste. Et on a un troisième courant, qui est le courant ouvrier et révolutionnaire, qui lui s'inscrit clairement dans la lutte des classes contre le capitalisme. Ça prend la forme au début du 19e siècle des amicales, des mutuelles, des coopératives, et donc des lieux où on va s'organiser ensemble pour notre propre éducation populaire. Et un âge d'or de ce courant-là, c'est les bourses du travail à la fin du 19e siècle, qui sont vraiment un lieu qui après va, enfin qui est en lien avec le syndicalisme et qui va se regrouper avec la CGT un petit peu plus tard, et qui sont des lieux où on lit réellement les questions d'éducation, donc liées au savoir, les questions d'émancipation et les questions de lutte. Et donc c'est vraiment un lieu très 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 intéressant.
Alors tu évoquais de différents lieux hein, où se pratique, où se vit l'éducation populaire avec des niveaux et des enjeux peut-être perçus différemment. Tu évoquais l'école, tu évoquais les jardins ouvriers hein, qu'évoquait Sandrine. Est-ce qu'il y a d'autres lieux? Et puis finalement, un lieu dans lequel tu es particulièrement investi, le community organizing. Alors est-ce qu'on peut essayer d'aborder ces différents lieux justement?
Il y a des lieux qui se développent en ce moment depuis quelques années. Il y a en France un peu une nouvelle idéologie, c'est de la démocratie participative, donc qui part du constat que la démocratie représentative actuelle n'est pas satisfaisante. Et ça, c'est un constat qui se généralise largement au-delà des milieux qui se qualifient de révolutionnaires. C'est-à-dire que très largement aujourd'hui, on a toutes les marques d'une remise en cause de la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui est plus considérée comme démocratique. Et donc ça donne une démarche participative décidée par en haut, quand même, globalement, comme moyen de relégitimer la démocratie sous une forme légèrement modifiée. Globalement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est peut-être très généreux et très de bonne volonté, quoi, ça se questionne, mais en tout cas, ça marche assez mal. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de s'émanciper. Il faut quand même s'émanciper quelque part en s'opposant. Et là, venir participer à des réunions organisées par l'institution qui nous opprime et qui fixe l'ordre du jour, bon, en fait, ça marche pas. Enfin, il y a des endroits où ça marche et en tout cas, il y a plein de gens de très bonne volonté qui essaie de faire marcher ces endroits-là, mais c'est vraiment très compliqué. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle le community organizing, sur le principe qu'on ne va pas aller au rendez-vous que nous fixe l'élu, à l'heure qu'il nous fixe, dans le lieu qu'il nous fixe, sur un emploi du temps, sur un ordre du jour qu'il nous fixe. C'est nous qui allons fixer de quoi on veut parler, le jour où on en parle et où on en parle. Et donc c'est renverser un petit peu ce truc-là, plutôt que d'être dans la co-construction, la coopération, on va revaloriser la conflictualité et des rapports sociaux, et donc on va s'organiser pour pouvoir peser et forcer l'élu à venir au jour et au lieu où on le souhaite. Donc l'organizing, c'est une pratique qui vient des États-Unis. À la base, c'est une pratique syndicale qui a été sortie du milieu de l'entreprise, enfin élargie en dehors de l'entreprise à la fin des années 30 par un mec qui s'appelle Saul Alinsky, qui est un peu qui est considéré un peu comme le père fondateur. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde aux États-Unis, tout le monde a lu Alinsky, mais plus personne. Enfin, les gens considèrent que, au mieux, il est daté, au pire, il est nocif. Quoi. C'est-à-dire que là-bas, ils ont, parce que donc j'étais aux États-Unis ces derniers mois, ils m'ont fait le parallèle avec Freud. Quoi. C'est-à-dire que sa contribution est très importante. Maintenant, il n'y a plus quand même grand monde. C'est largement dépassé. Enfin, on a dépassé ça. Quoi. Donc Alinsky, c'est un peu cette figure-là. L'organizing, ça consiste à avoir une action très volontariste et très pragmatique, c'est-à-dire centrée sur l'efficacité, qui vise à s'organiser pour se faire entendre. Le but, c'est de transformer nos ressources, et nos ressources, c'est principalement notre nombre. En face, leurs ressources, c'est beaucoup l'argent, nous, c'est beaucoup notre nombre. Transformer ces ressources-là en pouvoir. Donc l'idée, ça va être de monter des contre-pouvoirs populaires basés sur souvent une base territoriale, souvent c'est une base territoriale. Donc soit on va regrouper les gens individuellement, soit on va faire de la coalition d'organisation, soit les deux. Et par exemple, la figure hyper connue de l'organizing aux États-Unis, mais justement, il travaille à réécrire cette histoire-là, c'est la figure de Rosa Parks, qui est souvent présentée comme une femme qui était fatiguée et qui un jour a décidé de s'asseoir au mauvais endroit. Bon, en vrai, c'était beaucoup plus stratégisé que ça, beaucoup plus pensé en amont. C'est-à-dire que c'était le mouvement noir existait déjà depuis pas mal d'années, et puis ils se sont dit bon, on veut lutter contre ça, mais on peut pas lutter contre le racisme. C'est un truc, c'est une idée. C'est comment ça se concrétise en pratique, et donc des choses contre lesquelles matériellement on peut lutter. Bah, par exemple, il y a les bus et la ségrégation dans les bus. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre les bus ? Bah, les bus, en fait, on est leurs clients en tant que noirs, on est leurs clients, c'est nous qui payons les tickets, ils ont besoin qu'on paye leurs tickets, sinon ils y sont un peu emmerdés. Donc du coup, bah, c'est ça notre pouvoir sur eux, c'est le fait qu'on paye les tickets. Donc comment on va faire le truc ? Et donc ils ont choisi Rosa Parks pour faire l'action qui a lancé les choses. C'est-à-dire qu'au début, ils hésitaient entre plusieurs personnes pour faire cette action. Et il se trouve que dans les personnes pressenties, il y avait une femme qui était enceinte alors qu'elle était célibataire. Donc ils se sont dit, bah, on va pas prendre cette personne-là parce qu'on sait que le camp d'en face va nous attaquer là-dessus. Donc ils ont choisi quelqu'un bien sous tout rapport, de façon à ne pas accrocher des critiques faciles et hors sujet qui déplaceraient le débat. Et du coup, il a été décidé que Rosa Parks, tel jour, s'assirait au mauvais endroit. Ils ont appelé la presse, etc. Et à partir de là, le scandale est monté. Et donc, il y a eu tout un travail pour faire monter la mobilisation au sein des populations noires en disant, c'est pas possible, là, il faut qu'on se rebelle. Et leur arme, c'était quoi ? Leur arme, c'était leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de prendre le bus, et les Noirs étaient en fait les personnes... Enfin, il y avait plus de Noirs que de Blancs qui utilisaient les bus. Donc si la population de Noirs arrête de prendre le bus, ça devient vraiment critique pour la compagnie. Et donc ils ont créé le problème pour la compagnie, c'est-à-dire qu'ils ont décidé... Enfin, ils se sont mis d'accord pour faire un boycott, et là, la compagnie, elle avait un vrai problème. Le boycott a quand même duré un an, donc le rapport de force a été lent. Mais au bout de ça, ils ont réussi à négocier, et finalement, la ségrégation dans les bus a été annulée. Mais en tout cas... Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que c'est pas juste une femme qui un jour était fatiguée, quoi. C'est pas vrai. Et c'est vraiment une stratégie. L'organizing, c'est ça. C'est vraiment stratégie, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est centré sur l'efficacité, la question des pouvoirs, qui est la cible, quel pouvoir, qu'est-ce qu'on peut... comment on peut peser sur elle, comment on peut la faire tanguer. Et donc, on va vraiment faire pression. Et donc voilà. Et... tout ça s'est mis en place et c'est favorisé par une figure qu'ils appellent organizer, qu'en France on traduit par organisateur. Et donc cette personne-là, c'est généralement quelqu'un à plein temps, de salarié par l'organisation, donc qui est sous la hiérarchie de l'organisation, donc des membres. Mais il va être vraiment chargé de faire en sorte que l'organisation fasse du community organizing. Et donc il a quatre missions principales. Il y a la mission de la mobilisation. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les gens. Donc selon les méthodes, les endroits et tout, ça va être faire du porte-à-porte, 4 heures de porte-à-porte par jour, bam, parler au plus de gens possible, les ramener, aller faire des entretiens avec des gens qui sont très investis dans des associations existantes, faire 20 entretiens d'une heure par semaine pour échanger. Et vous, c'est quoi ? Vous travaillez sur quoi ? Et c'est quoi vos intérêts ? Et vos membres, c'est qui ? Ah, mais on pourrait travailler ensemble là-dessus, créer de la coalition. Donc c'est vraiment quelque chose de très stratégisé. C'est pas on colle une affiche et on attend que les gens arrivent, quoi. C'est vraiment un travail... ils y vont à fond, quoi. Le deuxième axe, c'est la conscientisation. Sur cet axe-là, l'organisateur, il a une posture un peu animateur populaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la propagande en mode « il faut qu'on lutte pour l'écologie, c'est important ». Il va être dans la question ouverte. Et vous, vous avez quoi comme problème ? Ah oui, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et avant, c'était comment ? Et dans le quartier d'à côté, ça se passe comment ? Enfin, donc, ça va être... c'est un travail de maïeutique, faire accoucher la personne et qui généralement se fait pas prier, hein, pour voir quelles sont les colères. Ça va être aller chercher les raisons de s'organiser et les raisons de se battre, et voir quelle est l'oppression en place, quoi. Enfin, pourquoi c'est pas comme ça. Le troisième axe, ça va être le pouvoir d'agir. Donc on est encore dans le champ de l'éducation populaire. L'organisateur va avoir une fonction un peu de formateur au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'au fil des choses qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va organiser une réunion collective avec tous les gens qu'on aura rencontrés, ok, comment on organise la réunion collective ? Et là, on va se former à, bah, est-ce qu'il faut répartir la parole ? Qui répartit la parole ? Il y a quoi comme règle pour répartir la parole ? Quand on va aller négocier, bah, on va se préparer à la négociation, on va faire des jeux de rôle. Ça, c'est très très puissant comme outil, le jeu de rôle, parce que c'est un outil qui permet de sortir de ces déterminismes, justement, et de travailler à réagir autrement que ce qu'on aurait réagi habituellement. Donc l'organisateur, il va mettre ça en place, il va s'assurer que chaque action permet de se former et permet d'avancer vers l'autonomie individuelle et collective du groupe pour pouvoir continuer. Et le quatrième axe dont est chargé l'organisateur, c'est s'assurer de la stratégie politique. Parce que l'idée, c'est que notre pouvoir, c'est notre nombre, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Et si on veut être nombreux, il faut qu'on soit, faut que ce soit positif, il faut qu'on gagne. Si on fait que perdre, bon, bah, les gens ont peut-être mieux à faire, quoi. Donc, du coup, c'est s'assurer que ce qu'on va faire nous mène à des victoires. Donc, du coup, on va chercher ce qu'on appelle des petites victoires gagnables et rassembleuses. Donc, c'est s'assurer avec un travail de questions-réponses avec les gens. Et ça, tu penses qu'on peut le gagner, hein? Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut... quels sont nos intérêts? Quels sont les intérêts en face? Quels sont les intérêts en jeu? Pour essayer de mesurer des choses gagnables. Alors, du coup, bah, ça permet d'avoir des victoires, dans le meilleur des cas. Mais ça nous limite à des victoires gagnables. Et ça, c'est une limite, quand même. Donc, il faut faire attention à toujours lier ces victoires gagnables avec autre chose.
Alors justement, est-ce que tu peux évoquer dans ce que tu as fait, aussi bien aux US qu'en France, les types d'actions sur lesquelles tu as pu te mobiliser en tant qu'organisatrice, et puis comment ça s'est passé, des victoires, des échecs, des difficultés, quel retour des hommes et des femmes concernés?
Alors en France, ça commence tout juste, c'est encore très très microscopique, pour ce que, en tout cas moi j'ai pratiqué. Donc peut-être que c'est plus intéressant que je parle des États-Unis à ce niveau-là. Du coup, par exemple, la lutte actuelle sur le salaire minimum, qui s'appelle Fight for 15, c'est une lutte qui est menée avec les méthodes de l'organizing. De toute façon, globalement, là-bas, l'organizing, c'est l'outil de la gauche, et pas que d'ailleurs, parce que maintenant la droite l'utilise aussi. Mais du coup, c'est l'outil normal de lutte, quoi. Donc du coup, toutes les luttes sont faites comme ça. Donc sur Fight for 15, donc, qui consiste à augmenter le salaire minimum, c'est une lutte qui a commencé dans le secteur des fast-food. Et qui après allait sur les travailleurs dans les aéroports. Donc c'est des travailleurs très... Il n'y a pas de collectif de travail fort, ils sont extrêmement précaires. On est sur une catégorie de salariés très compliquée à organiser. Et du coup, ils vont à la fois faire cette méthode d'organizing en mode syndical, c'est-à-dire dans les endroits, les lieux de travail, aller chercher les gens, etc. Et à la fois dans les associations, donc associations revendicatives, les community organizations, ils vont, parce que tout le monde est concerné par le salaire minimum, aussi dans les associations, ils vont travailler là-dessus, aller faire du porte-à-porte pour voir si les gens ont envie de se mobiliser sur ces questions. Et donc, ce travail de mobilisation, il est fait. Et du coup, on va aller chercher... Alors là, c'est peut-être pas un très bon exemple parce qu'en mode victoire gagnable, bon, il se trouve qu'il le gagne. Il y a plusieurs États, des villes et tout qui sont en train de le passer. Mais on n'est pas sur une petite victoire. C'est justement assez ambitieux et c'est assez chouette, du coup. Donc, il y a des étapes qui sont pensées. Mais l'idée, justement, c'est de penser des étapes et de se dire, on va commencer par des petites victoires qui vont nous permettre de gagner de plus en plus. Donc, peut-être qu'ils en sont à Fight for 15 aux États-Unis parce qu'ils ont fait d'autres étapes. Bon, après, les États-Unis, c'est loin d'être le paradis du point de vue des luttes non plus. Mais nous, par exemple, en commençant en France, les problèmes dans le quartier où j'étais, c'est un quartier où c'est quasiment que des tours d'une vingtaine d'étages et les ascenseurs sont en panne plusieurs semaines par mois. Enfin, ça dure, c'est incroyable. Alors que normalement, un ascenseur, en 4 heures, il y a une intervention d'un technicien et au pire, 12 heures, c'est réparé, quoi. Donc, et là, c'est systématique, ça dure longtemps, donc il y a un truc qui ne va pas. Pareil, les instits, quand il y en a un qui est absent, il n'est pas remplacé. Une instit en congé maternité, régulièrement, elle n'est pas remplacée non plus. Enfin, il y a vraiment un problème, alors que dans un quartier bourgeois, c'est même pas imaginable et remplacer tout de suite. Donc l'idée, c'est de partir de ces colères-là qui sont celles des gens et de créer la solidarité autour de ces colères, c'est-à-dire de se rendre compte que tout ça, ça procède d'une même oppression et que, encore une fois, là, l'oppression, si on est basé sur le quartier, c'est le fait d'être dans un quartier populaire, donc d'appartenir à une classe populaire et que si on était dans un autre quartier, ça se passerait pas comme ça. Donc si on arrive à prendre conscience de ça, ça fait que les gens qui n'ont pas d'enfants à l'école, ils pourront être solidaires et se mobiliser sur la lutte école, pendant que ceux qui sont venus pour leur intérêt d'école vont être solidaires et être présents sur la lutte pour les ascenseurs, même si eux, ils habitent à un rez-de-chaussée. Donc, c'est créer aussi cette solidarité.
Parce que là, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement tu fais prendre conscience, tu fais la maïeutique de la conscience des problèmes et comment les gens ils pourraient s'en débarrasser, mais en plus, tu fais prendre conscience que les gens entre eux, même s'ils ne sont pas directement concernés, ils peuvent effectivement se soutenir et donc avoir une lutte plus forte et plus qui va aller plus loin, c'est ça?
Oui, moi c'est ce qui m'a intéressée dans l'organizing, c'est l'idée d'essayer de recréer une conscience de classe au travers de tout ça. Après, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on se retrouve dans la même question que les luttes de manière générale, c'est que la temporalité des luttes, c'est pas la temporalité de l'éducation, et que l'éducation, ça demande du temps, ça demande du collectif, ça demande de la confiance, alors que les luttes, ça demande de la réactivité, ça demande un peu de vitesse, surtout que l'organizing, avec son idéologie de l'efficacité, est très 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 axé sur la vitesse. Et du coup, voilà, on peut pas tout faire parfaitement, mais je sais que moi, j'ai pas réussi à vraiment mettre en place ces espaces d'éducation populaire où collectivement, on prend le temps de réfléchir, de regarder ce qui se passe et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour que notre lutte contre les ascenseurs en panne et pour le remplacement des profs, ce soit une lutte réellement plus large que ça. Et ça pose la question de la sortie des luttes, donc c'est une méthode syndicale à la base, et là, l'idée, elle a été sortie du milieu de l'entreprise. Je pense que c'est extrêmement intéressant dans une époque aujourd'hui où le travail est, enfin, c'est une des ruses du capitalisme en ce moment, c'est de déconstruire les collectifs de travail et de faire que du coup l'oppression est moins visible, même si elle existe toujours. L'oppression de classe est moins visible parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression d'être leur propre patron, et bon, voilà. Et donc c'est nécessaire de déplacer peut-être en dehors du syndicalisme traditionnel de grosses boîtes, parce que ces grosses boîtes n'existent, enfin, sont plus du tout majoritaires pour plein, enfin, il y a plein de gens pour qui c'est pas une réalité. Et à la fois, dans le syndicalisme, on sait assez vite pourquoi ou contre quoi on lutte. C'est-à-dire que des travailleurs qui bossent ensemble et qui ont un problème, quel qu'il soit, et il peut paraître minime.
C'est circonstancié.
Ouais, mais il procède toujours d'une oppression qui est relativement claire. C'est qu'en gros, le patron, son problème, c'est pas notre bien-être, c'est son profit. Donc voilà. Alors que quand on sort de ça, il faut vraiment, je pense, prendre le temps de faire ce travail sur quelle est l'oppression qui produit ce contre quoi on est en train de lutter. Et si on ne fait pas ce travail-là, en fait, on va s'épuiser, parce qu'on peut lutter contre les ascenseurs, l'école.
C'est sans fin.
C'est sans fin. Et à la fois, c'est indispensable. Enfin, il faut qu'on lutte contre tout ça et pour tout ça. Mais c'est là où, voilà, moi, je retombe du coup sur mon obsession. Comment on lit éducation populaire et les luttes, parce que il faut qu'on lutte contre tout ça, il n'y a pas le choix. Et à la fois, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte qu'on sache contre quoi on lutte, parce que sinon, si on est juste sur l'idée que c'est des problèmes de communication et que c'est pas de chance, le mec qui gère, l'entreprise qui gère l'entreprise d'ascenseur, il a pas assez de gens pour l'instant, mais il aurait bien voulu, mais vous comprenez, il a pas eu le coup de fil, et puis l'OPH, il aimerait bien changer de prestataire, mais pour l'instant, là, il faut attendre le prochain appel d'offres, et c'est obligatoirement l'année prochaine. Enfin, en fait, on s'en sort pas. Et si on parle pas réellement d'oppression, à la fois on gagne. Alors oui, on a des petites victoires, mais est-ce que c'est satisfaisant ? Oui, c'est satisfaisant parce que c'est réglé, mais enfin voilà, il y a vraiment, et donc cet enjeu de faire le lien entre les deux, c'est pour moi le Graal.
Je vais me faire l'avocat du diable, parce que tu dis il faut savoir contre quoi on lutte, contre qui on lutte. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt se dire pourquoi on lutte? Et du coup, une fois qu'on a cette réponse de pourquoi on va lutter, on va peut-être moins se fatiguer, parce qu'on va se dire effectivement, c'est pas fini. Les problèmes seront plus des problèmes, mais seront des étapes d'évolution.
Pour moi, c'est justement, il faut lier les deux, donc je suis d'accord.
Donc, et on en revient à l'éducation populaire,
Pourquoi on lutte, mais à la fois, il y a des choses contre lesquelles il faut lutter.
Oui, mais ça, c'est circonstancié, c'est-à-dire que ce sont les marches, tu vois.
C'est les marches, mais c'est le quotidien et c'est les souffrances au quotidien, et donc du coup c'est les marques de l'oppression, et donc c'est le contre qui définit le pour, en fait. C'est le contre qui nous permet d'aller, de monter en généralité et d'aller sur le pourquoi on lutte. Mais
parce que la question se pose à un moment donné, quand tu dis il y a des petites victoires, donc là, et au bout d'un moment, c'est vrai que les gens ils peuvent se dire ah ben on a gagné ça, on va se reposer, parce que c'est quand même fatigant de lutter, on est d'accord. À un moment donné, on a notre vie à mener, on a nos enfants, tout ça. Et est-ce qu'effectivement, une fois qu'on se dit, voilà, on va poser les choses, on a gagné ça, et alors, on va vers quoi, tu vois? Et ouais. Là, on peut continuer en s'épuisant moins. En fait, c'est un petit peu, tu vois, le sens de ma question.
Je sais pas si on s'épuise moins, parce que
je pose la question.
Donc ouais, on lutte. Moi, si je lutte, par exemple, pour le communisme libertaire, bon bah très bien. Mais enfin bon, on fait quoi? donc du coup, enfin voilà, c'est tout être à la fois de réussir vraiment à faire le lien entre les deux. Je pense que c'est hyper compliqué, et donc c'est un combat perpétuel.
Et aujourd'hui, ta synthèse personnelle, c'est quoi finalement?
Moi, j'en suis. Je pense que l'organizing, enfin, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de, de voir les choses un petit peu autrement, de sortir de mes habitudes, de mes blocages, du coup, c'est-à-dire de mes propres impuissances, à la fois dans le champ de la lutte et dans le champ de l'éducation populaire, pour regarder les choses autrement, pour peut-être trouver des pistes et de l'énergie. Et moi, je pense que dans l'époque où on est, tout ce qui nous donne de l'énergie est bon à prendre. En revanche, je suis assez peu favorable quand même à une stratégie d'importation totale, c'est-à-dire que ça vient quand même d'une autre culture qui fonctionne un peu différemment. La démocratie états-unienne n'est pas la même que la nôtre. Les deux sont largement imparfaites, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes défauts. Je ne suis pas sûre qu'importer les défauts de la démocratie états-unienne aide beaucoup nos défauts à nous. Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à prendre en termes de questionner nos pratiques, les renouveler, retrouver des pratiques qu'on avait et que peut-être on a un peu moins. Enfin, voilà. Et donc, plus dans l'hybridation, hybrider dans l'éducation populaire, dans les luttes, pour quoi ? Toujours le pour. dans cette idée de, dans l'éducation populaire, essayer de faire plus le lien avec la lutte. Et on se conscientise, on développe notre pouvoir d'agir et on s'émancipe individuellement et collectivement. Mais du coup, comment on transforme les choses au-delà aussi, et aussi dans la lutte. Et du côté de la lutte, comment est-ce que, tout en luttant et en résistant, en étant face à l'urgence, aux nécessités, etc., comment est-ce qu'on prend le temps et comment est-ce qu'on crée de réels collectifs qui sont durables et qui ont une ambition relativement large ?
Ce qui est intéressant, moi je me disais tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant dans le communauté, enfin la
community organizing.
Exactement. Mmh. J'ai un petit peu de mal à m'en souvenir. En fait, moi, ça me faisait l'image du tai chi. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le tai chi, mais c'est utiliser la force de l'agression de ton adversaire pour pouvoir justement, avec cette force-là, sans toi prendre trop d'énergie sur toi-même, à gagner, en fait, réussir à gagner et à battre l'autre en face. Mmh. Mais parce qu'il t'agresse, parce qu'il est en agression envers toi, pas parce que tu as besoin de lutter contre quelque chose. Et c'est ça, en fait, c'est vrai que ça déplace un petit peu le contre le, tu vois, un petit peu cette lutte qu'on avait un peu binaire pendant longtemps, qui nous a beaucoup servi, et ça la transforme un peu. Moi, je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là, en fait, tu vois.
Je pense que c'est assez efficace du fait de cette prise en compte de comment est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est une méthode. Comment est-ce qu'on fait ? Et en effet, on utilise la force de l'autre contre lui et pour le mettre à bas. Et du coup, cette efficacité, elle a vraiment cette vertu du fait qu'elle vise des améliorations directes. On n'est pas dans les grandes idées, on est dans le concret et notre but, c'est de gagner. Parce que, voilà. Et à la fois, justement, toujours faire le lien. Aux États-Unis, quand même, l'organizing, c'est un outil du réformisme, c'est-à-dire que c'est un réformisme qui est très efficace, qui obtient, là, ils commencent à obtenir une augmentation du salaire minimum, c'est énorme.
Surtout aux États-Unis.
C'est une très, très grande victoire. Mais du coup, ils sont tellement dans le réformisme qu'il y a vraiment cette idée, le slogan de la lutte Fight for 15, d'augmentation du salaire minimum, c'est Fight for 15 and Raise America. Donc, et sauvons l'Amérique. Donc il y a toute cette idée, mais ça c'est une croyance keynésienne, c'est l'économie de la relance, du contrat social qui veut qu'on va donner plus d'argent aux gens et donc ils vont plus consommer et donc tout le monde est content. Youpi. Et moi j'étais là, non, en fait, moi, raise America, en fait, non, c'est pas mon objectif. Enfin, bon. Et du coup,
I want to raise France.
Non. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là de réussir, et ça, c'est défini dans le syndicalisme. Le syndicalisme révolutionnaire, donc dans la charte d'Amiens, est défini avec sa double besogne. L'objectif de gagner des améliorations, on est dans le champ du réformisme, et c'est hyper important. Il n'y a que les riches qui peuvent se dire « Ah mais non, mais c'est nul, c'est de la réforme. Enfin, » il y a un moment, tu habites au 20e étage, tu n'as pas d'ascenseur. Oui, t'es sympa, mais moi je veux mon ascenseur. Quoi. Donc voilà, donc, le réformisme, pour moi, il est indispensable. Mais par contre, c'est très très important de ne pas de le déconnecter, donc double besogne, amélioration directe et préparation d'une transformation plus radicale et visée d'une transformation plus radicale, parce que si on perd ça, on aura un ascenseur, mais enfin bon, on continue à se faire avoir sur ci, sur ça, nanana, bon bah oui, il faut qu'on ait l'ascenseur, mais on mérite mieux que ça, quoi.
Et puis aujourd'hui, tu le disais toi-même, hein, la droite comme la gauche utilise le community organizing. En France, Mélenchon et la France Insoumise se proposent d'utiliser aussi, ils ne l'appellent pas comme ça, ils disent s'inspirer de Saul Alinsky. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'est qu'un outil qu'il faut référer à des valeurs, à des enjeux, à des finalités ? Comment tu situerais le problème ?
Pour moi, l'organizing, c'est juste un outil de lutte. C'est-à-dire que, comme je disais, aux États-Unis, c'est l'outil de lutte personne, ils savent pas faire autrement, quoi. Et d'ailleurs, ils nous regardent comme des grands romantiques. Enfin, voilà. Du coup, ouais, là-bas, là, c'est le Tea Party qui a commencé à utiliser. Enfin, je sais pas si c'est eux qui ont commencé, mais en tout cas, qui ont beaucoup utilisé l'organizing, notamment comme technique de lobbying, parce que ce que je disais, l'organizing qui consiste à aller faire pression sur les décideurs. Donc, en fait, on est dans une logique de qu'on pourrait dire de lobbying. Pour moi, le rapport de force, c'est une nécessité parce que le combat, il existe. On est engagé dans un combat de classe et dans d'autres combats aussi qui fait qu'il faut qu'on développe notre rapport de force pour avancer. En revanche, ce n'est pas un projet de société parce qu'en fait, le projet de société du rapport de force, c'est rien d'autre que la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et à ce jeu-là, on est à peu près sûr de perdre. Enfin, je veux dire, comme l'argent est quand même le plus grand outil de puissance, l'argent gagnera toujours, même sur le nombre. Et du coup, pour moi, c'est pas un projet de société. Donc, faire la différence entre résistance et projet de société. Et du coup, résistance, ça peut être utilisé pour plein d'outils différents. Et donc, le Tea Party l'a utilisé pour... Alors, eux, ils disent là-bas, bon, je suis pas spécialiste des États-Unis, mais ils disent que le Tea Party a empêché Obama de faire ce qu'il voulait faire. Bon, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont empêché des lois de passer, etc., en faisant pression sur les élus, en appelant, en disant si vous votez ce truc-là, on fait en sorte que vous soyez pas réélu l'année prochaine. Donc, on est vraiment sur un truc comme ça. Donc, c'est utilisé. Aujourd'hui, il y a des fondations de droite qui sont en train de faire des campagnes de désyndicalisation, c'est-à-dire qui payent des gens pour faire du porte-à-porte, pour aller parler aux gens chez eux en leur disant « Mais vous savez, vous payez votre cotisation syndicale, mais en fait, ça vous sert à rien, à quoi ?» Enfin, en fait, ils font exactement la même chose. Ils font un travail d'organizing avec ces questions ouvertes, etc., voilà, pour amener les gens à penser ce qu'eux les arrange. Et du coup, ils sont tellement efficaces et ils ont tellement d'argent que, que chaque, ils ont tous leur tablette et en direct, quand ils sont à la porte, pendant qu'ils ont la personne sous leur influence, ils vont les amener à cliquer sur « Je me désyndicalise » parce qu'ils ont monté un site qui permet de désyndicaliser les gens hyper rapidement. Donc, on n'en sort pas. On est en fait dans un rapport de force où c'est celui qui mettra le plus de moyens et d'énergie, l'énergie étant souvent conditionnée par les moyens, et les moyens, c'est eux qui les ont, pour faire aux gens ce qu'on leur présente comme étant bon pour eux à ce moment-là. Enfin, et donc, en fait, tant qu'il n'y a pas... Enfin, la solution, il faut absolument qu'il y ait de l'élaboration collective, parce que sinon... c'est là l'idée de... Vraiment, l'importance de l'éducation populaire, qui, je pense, n'est pas assez importante dans l'organizing, comme elle pourrait être plus importante dans les luttes aujourd'hui, c'est pas lutter seulement contre, mais pour aussi, c'est vraiment remettre ça en contexte. Et concernant la France insoumise, du coup, oui, ils ont envie, enfin, ils ont aussi plein de nouveaux militants qui les ont rejoints. L'idée, c'est de maintenir ces militants jusqu'aux prochaines élections, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir besoin d'eux pour aller chercher des voix. Donc, il faut qu'il y ait une utilité. Puis, c'est des gens qui veulent réellement changer des choses et qui, donc, ne savent pas comment faire. Et donc, on leur fournit une méthode qui va faire en sorte qu'ils vont savoir quoi faire. Ça pose quand même la question de qui sont ces gens qui vont débarquer dans d'autres quartiers pour aller organiser des gens qu'ils connaissent pas, combien de temps ils vont rester, est-ce qu'ils vont vraiment bosser ensemble, ou est-ce que c'est là pendant qu'ils ont de l'énergie un peu de temps ils vont le faire puis après ils vont disparaître, est-ce qu'ils deviennent camarades de lutte ou pas, enfin voilà. Et puis qu'est-ce qui va se passer au moment des votes? C'est-à-dire, est-ce que tout ça, ça va être super, maintenant qu'on se connaît, qu'on se fait confiance, bah, votez pour nous, vous allez voir, on va tout régler. Et ça, j'en reviens au syndicalisme et à la tradition qu'on a en France de séparation des mouvements sociaux et des mouvements électoraux, la charte d'Amiens, 1906, sur l'idée que si les mouvements sociaux sont trop liés, sont liés tout court aux mouvements électoraux, en fait, ça dépossède les mouvements sociaux de leur mission politique. C'est-à-dire que les syndicats délèguent aux élections, aux élus, et c'est ce qui se passe aux États-Unis où il n'y a pas cette séparation-là. Les syndicats délèguent aux élus la mission de faire changer la politique, et les syndicats s'occupent juste des questions de travail. En France, on a une autre tradition, et je pense que l'organizing ou l'associatif revendicatif, ou quelle que soit la façon dont on l'appelle en France, c'est important qu'il reste, c'est très important pour moi qu'il reste indépendant des mouvements électoraux.
Très bien, on va s'acheminer vers la fin de cette discussion sur Micro-Rebelles. Peut-être une dernière question, Adeline. Tu as fait deux débats sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu en retires de ces deux échanges ?
J'en retire beaucoup d'air et beaucoup d'intérêt parce que moi, je suis rentrée il y a moins d'un mois là, des États-Unis. J'y suis pas. partie, enfin je sors du coup de 2 ans de pratique de l'organizing qui m'ont... J'y suis allée avec beaucoup de questions, mais j'avais besoin d'essayer des choses, donc j'y suis allée quand même. Je l'ai pratiqué avec beaucoup, beaucoup de questions. Et je suis allée aux États-Unis, ça m'a posé encore plus de questions. Et ces questions, j'ai besoin, envie de les confronter, de les partager. Et donc, je suis toujours hyper ravie d'en discuter avec des gens. D'autant que là, que ce soit au lieu autogéré du bassin minier ou hier à l'auberge espagnole, c'est des gens qui ont une expérience des luttes, une expérience de l'éducation populaire. Et donc, qui évidemment ont plein d'avis là-dessus. Et c'est d'une riche... enfin, c'est super de pouvoir en parler ensemble.
Et tes projets dans l'immédiat ?
Et ben là, du coup, j'ai tellement appris que je crois que j'ai besoin de poser tout ça. J'en ai besoin pour moi. Je pense que je suis à un moment, moi, de mon parcours où j'ai besoin de poser des choses et puis l'envie de partager. Et du coup, ben, je me lance dans l'écriture d'un bouquin, donc qui sortira probablement l'année prochaine. Voilà, donc c'est un exercice un peu inédit pour moi et un peu effrayant, je dois le dire. Mais je suis vraiment très... Je crois que j'en ai affreusement envie et besoin de mettre ces questions par écrit, de les partager et pas dans une optique de détruire quoi que ce soit, parce que j'en vois pas l'intérêt. Au contraire, de partager de l'énergie, de montrer, enfin de voilà, et sur l'idée. Construire. C'est mon éditeur qui m'a dit, on écrit un bouquin quand on a une obsession. Je suis là, mais ouais, c'est ça en fait, j'ai une obsession. et c'est comment on lit éducation populaire et lutte quoi.
Eh bien, écoute, on compte sur toi pour te revoir quand le bouquin sera écrit, hein, pour nous présenter. Merci Sandrine, merci Adeline,
à très bientôt.
Merci et bonne continuation.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.